Perkeleen tontot!
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Meload qui, eh bien, chaque semaine vous propose un petit tour d'horizon des sorties métal du moment. Aujourd'hui, on a pas mal de choses hein, pour ce vendredi 2 octobre. Alors, je vais pas parler de tout aujourd'hui parce que je voudrais aussi revenir sur quelques sorties des semaines précédentes. Du coup, je vais en garder un petit peu pour la semaine prochaine. Mais on a de très belles choses qui sont arrivées aujourd'hui. Et l'émission, alors pour ce qui est des styles que vous pourrez écouter, évidemment ce sera du métal, mais quel sous-genre. On aura beaucoup de heavy, on aura beaucoup d'influence prog aussi, on aura du métal extrême avec notamment du black et du death. Et puis surtout, alors ça c'est pas un style musical, mais une bonne moitié des groupes que je vais passer aujourd'hui seront des groupes dans lesquels ce sont des femmes qui sont au chant. Donc voilà, ça va faire une émission, on va dire 50-50 entre garçons et filles, et ça, c'est cool aussi. Ça montre que chez nos amis métalleux, eh bien là aussi, hein, ça progresse et c'est très très bien. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec un groupe mené par une femme. Groupe qui vient d'ailleurs de changer de chanteuse, et ce groupe il est français, il s'agit de Nightmare, qui sort aujourd'hui l'album Aeternam. Alors Nightmare, c'est un groupe qui nous vient de Grenoble, qui a été créé en 1979 sous l'impulsion notamment du bassiste Yves Campion, qui reste à ce jour le capitaine du navire. Alors Nightmare, c'est un groupe qui va se faire remarquer en jouant en ouverture de Def Leppard en 83. Def Leppard avait joué à Grenoble, et du coup suite à ça le groupe va sortir deux albums qui vont rayonner bien au-delà de nos frontières hexagonales, hein, jusqu'au Japon, ce qui va laisser présager un avenir plutôt radieux hein, pour les Grenoblois. Et malheureusement, il y a plein de problèmes qui vont venir se mêler à tout ça, et finalement, la carrière de Nightmare, elle va avorter prématurément en 1987. Il va ensuite falloir attendre 99 pour voir un peu le phénix renaître de ses cendres. Alors, c'est alors l'ancien batteur Joe Amore qui va devenir le chanteur du groupe, et ce jusqu'en 2015, où là il va céder sa place à une chanteuse belge qui s'appelle Maggie Luiten, qui va faire un album avec Nightmare. Et puis elle va s'apercevoir que finalement c'était pas vraiment ce qu'elle voulait pour poursuivre sa carrière. Donc tout récemment, elle a cédé son micro à une autre chanteuse, une jeune chanteuse qui s'appelle Maddy. Et en fait, Maddy, Yves Campion, il l'a remarqué dans un bar lorsqu'elle donnait un concert avec son groupe, cette jeune femme. Donc Nightmare, pour ce qui est du style musical, on est sur du heavy metal à tendance power. Depuis sa reformation en 99, le groupe a sorti 9 albums studio, ce qui en fait en tout 11 si on compte les 2 qui sont parus dans les années 80, et puis si on compte bien sûr Eternam qui sort aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir un petit peu l'univers musical de Nightmare et puis ses différentes évolutions, moi je vous conseille tout particulièrement ses dernières productions, par exemple The Burden of God qui était paru en 2012, il y avait aussi The Aftermath en 2014 et puis Dead Sun en 2016 qui marquait l'arrivée du chant féminin et qui ouvrait encore quelque chose de nouveau. Et de l'évolution, bah, il y en a encore au programme hein, de ce nouvel album de Aternam avec donc bah, déjà l'arrivée au micro de Maddy qui a une voix un peu moins rocailleuse mais presque plus hargneuse que celle de Maggie Luitten, et du coup ça donne une nouvelle couleur et ça offre aussi de nouvelles possibilités au groupe, d'autant que Maddy elle est arrivée alors que les parties de chant avaient pas encore été composées, donc elle a pu prendre part à l'écriture en donnant son avis, en proposant quelques idées. Alors cet album, sans être véritablement un concept album, il nous propose tout de même un fil rouge. C'est ce qui va lier un peu l'ensemble du disque. Et ce fil rouge, en fait, il tourne autour des thèmes de la possession et de la décompensation vers la folie. Et en créant en fait une dynamique bah, relativement sombre qui va s'installer au fur et à mesure des morceaux. Et en fait, ce qu'a voulu faire le groupe à travers cet album Aeternam, c'est un peu rendre hommage à la glorieuse décennie 80 qui les a vus naître et dont l'héritage musical est très ancré même chez les plus jeunes membres du groupe finalement. Donc Yves Campion et ses musiciens ont choisi de s'inspirer donc alors, à la fois du heavy de l'époque, mais aussi pour écrire les paroles, de s'inspirer de classiques du cinéma d'épouvante des années 80 finalement, puisqu'ils sont allés chercher du côté de Aliens, Sing, Les Griffes de la Nuit ou même L'Exorciste et Karine. Alors vous allez me dire, ça c'est pas des années 80, c'est des années 70, certes, mais c'est quand même des films qui ont continué à avoir un impact assez fort durant les années 80. Ils sont allés s'inspirer de ce cinéma d'épouvante, mais en fait, pour une raison bien précise, c'est pour nous parler de façon finalement métaphorique et ben du monde de fou dans lequel on vit hein, maintenant. Peut-être ça a toujours été le cas, mais c'est vrai que alors Yves Campion, il a eu une déclaration que je trouve assez juste. Il a dit un débile comme Nordal Lelandais n'a rien à envier à Freddy Krueger, et c'est vrai que malheureusement, je pense qu'Yves Campion, il a pas tort sur ce fait-là. Sinon, musicalement parlant, Aeternam, il se distingue de son prédécesseur par une dimension qui est beaucoup plus orchestrale. Hein. Ici, ça prend une place beaucoup plus importante. On a de beaux arrangements qui sont bien travaillés. Je pense qu'avec Aeternam, Nightmare ajoute une très belle pièce à son solide édifice. Le combo grenoblois, c'est décidément une valeur sûre de notre scène heavy française. C'est dommage que ce soit les étrangers qui s'en rendent plus compte que nous, Français. Ma foi, c'est comme ça. On écoute un extrait de ce nouvel album. Ça s'appelle Divine Nemesis. Voici Nightmare sur Mac FM. Nightmare à l'instant sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Divine Nemesis, extrait du nouvel album Aeternam qui est paru aujourd'hui. Donc, nouvel album hein, pour ce groupe désormais culte de la scène heavy hexagonale qui a 31 ans de carrière, rendez-vous 41 ans de carrière, rendez-vous compte puisqu'il a été formé en 79 et qui nous présente là donc sa nouvelle chanteuse Maddy. On souhaite une très longue carrière à Maddy au sein de Nightmare. En tout cas, elle a un énorme potentiel et je comprends tout à fait que Yves Campion et craqué sur sa voix. Deuxième grosse sortie du jour, mais cette fois-ci qui va peut-être faire moins l'unanimité que ce qu'on vient d'écouter là, puisque c'est un groupe très clivant dont je vais parler maintenant. Alors moi je fais partie de ceux qui sont pas allergiques du tout à leur son très synthétique, mais voilà, c'est un groupe qui a ses aficionados mais qui a aussi pas mal de haters. Ce groupe c'est Amarante et ils sortent aujourd'hui l'album Manifest. Alors c'est un groupe suédois Amarante hein, qui nous vient de Göteborg, qui existe depuis 2008. Il a été créé par le guitariste et clavier Olof Mork et puis par le chanteur Jake E qui est parti en 2017. Alors ce groupe il a pour singularité d'avoir trois chanteurs. On a en fait un chant féminin qui est assuré par Elise Reed. Elise Reed c'est un peu la leaduse du groupe, c'est la frontwoman principale. Ensuite on a un chant growl masculin qui est assuré depuis 2013 par Henrik Englund. Et puis on a un troisième chant qui est un chant clair masculin qui depuis 2017 est assuré par Nils Mollins, donc on l'avait découvert sur l'album précédent. Alors Amarante, c'est au niveau du style musical, c'est un mélange de power metal, de death mélodique et de metalcore aux sonorités très électronicore, hein, c'est vraiment très très appuyé dans leur musique. D'ailleurs cet univers musical très synthétique fait d'Amarante un groupe, comme je l'ai dit, hein, qui est extrêmement clivant, avec d'un côté ceux qui adorent, avec même parfois un plaisir coupable, hein, y en a qui n'avoueront pas qu'ils aiment le son d'Amarante, et puis de l'autre il y a ceux qui frôlent le choc anaphylactique à chaque fois qu'ils entendent un riff du groupe, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'histoire d'Amarante, et pourtant ça marche, hein, parce que dès ses deux premières réalisations, le groupe va définir clairement cette identité musicale, et ça va provoquer vraiment un gros engouement. Alors ses deux premières productions, c'était l'album éponyme, donc Amarante en 2011, et puis The Nexus en 2013, qui va se classer d'ailleurs numéro 1 en Suède, hein, cet album-là, et puis numéro 1 des téléchargements iTunes dans la catégorie métal aux États-Unis, donc c'est pas rien. Hein. Des vidéos aussi qui vont faire un véritable carton sur le net. Par exemple, le clip de la chanson Hunger, actuellement, elle totalise presque 20 millions de vues. Donc voilà, hein, je pense que le chiffre parle de lui-même. Un succès qui s'est d'ailleurs confirmé par la suite, hein, avec la sortie de l'album Massive Addictive. Je sais plus en quelle année il est sorti celui-là. Enfin, en tout cas, ensuite, il y a eu Maximalism en 2016, et puis surtout, il y avait eu Helix en 2018. Qui marquait un nouveau pas pour le groupe vers des compos encore plus mainstream, qui sont vraiment taillés pour l'entertainment. Amarante, c'est un groupe de divertissement presque. Hein. Alors si vous avez détesté Helix, passez immédiatement votre chemin parce que vous allez détester encore plus Manifest. On y retrouve Amarante plus décomplexé que jamais, à l'idée donc de nous balancer une flopée de titres qui sont à la fois outranciers et ultra accrocheurs, car alors certes, hein, la recette elle est vraiment trop sucrée, et c'est justement pour ça qu'on a envie d'y revenir parfois jusqu'au dégoût. En fait, ce nouvel album d'Amarante, c'est une friandise qu'on pourrait comparer, vous savez, à ces sucettes chewing-gum dans les années 80-90. Une fois qu'on a pulvérisé la carapace en sucre, et ben on a envie de profiter du chewing-gum jusqu'à ce qu'il ait plus aucune saveur et jusqu'à ce qu'il nous file des crampes d'estomac. C'est précisément ce qui se passe hein, à l'écoute de Manifest. On apprécie vraiment le sens du riff du combo, son dynamisme, même une certaine agressivité des guitares, et puis on se délecte avec culpabilité ensuite des refrains pop sirupeux avec des samples qui sont piqués aux années 80, aux années 90, qui nous offrent un bon petit shot de nostalgie. Et puis, bah c'est pas tout, parce que pour que ce soit un petit peu piquant, il y a quelques featuring qui sont plutôt réjouissants. Il y a notamment Noura Louimo de Battle Beast. Alors Battle Beast qui donne un peu dans le même trip, alors moins beaucoup moins synthétique, mais qui joue beaucoup sur des trucs popisants. Et puis on a aussi un featuring avec Angela Gossow. Alors c'est dommage, il est pas sur toutes les éditions, c'est un bonus track. c'est ce featuring avec l'ex-chanteuse d'Arc Enemy est vraiment très très chouette. Alors si vous prenez tout ça, vous squeez, vous obtenez le parfait mélange entre amour et répulsion pour ce nouvel album manifeste d'Amarante, qui décidément n'ont pas d'audace. Hein. Voici un extrait d'ailleurs de Viral avec de Manifeste avec un morceau qui s'appelle Viral. Alors on aurait pu se dire que ce morceau il avait été écrit à l'occasion du Covid. Pourtant, il a été composé bien avant, hein, puisque l'album sort maintenant et le groupe a confirmé hein, que le morceau avait été écrit avant le disque. Par contre, le clip qui lui est sorti en juin fait clairement référence à ce qu'on vit depuis le début de la pandémie. On y voit des gens qui sont visiblement confinés, des concerts annulés, on y voit des masques. Enfin voilà, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil à ce clip de Viral. Le voici tout de suite pour l'instant en version audio. On écoute Amarante sur Bac FM. Amarante à l'instant sur Bac FM dans l'émission Check Me Load. Il s'agissait d'un extrait du nouvel album Manifeste qui est paru aujourd'hui. Et le titre qu'on vient d'écouter, eh bien, c'est Viral, un titre totalement d'actualité. Donc voilà, je pense que parmi nos auditeurs, certains ont aimé, d'autres pas. Moi, j'aime beaucoup. Hein, je trouve qu'il y a un côté très entraînant, très divertissant dans la musique d'Amarante. Et je trouve qu'il est très réussi, cet album Manifeste. Voilà. Après, peut-être que vous n'aimerez pas et c'est tout à fait votre droit. Alors là, on va changer de style radical. On va rester en Scandinavie quand même, hein, mais on quitte la Suède pour la Norvège. Et là, on va aller dans des terres beaucoup plus froides et beaucoup plus sombres avec Enslaved, et bien qui sort également aujourd'hui un nouvel album qui s'appelle Utgard. Enslaved, groupe originaire de Åkersund, qui a déjà une belle discographie derrière lui, hein, puisque le groupe existe depuis 91. Il a été créé notamment par le chanteur-bassiste Grøtel Kjellson et le guitariste Ivar Bjørnson, dont je m'excuse d'avoir écorché probablement leur nom. C'est les deux membres fondateurs encore présents aujourd'hui. Alors, c'est un groupe qui s'inspire beaucoup des légendes et des sagas nordiques. Hein. À ses débuts, le groupe Enslaved va donner dans le black metal traditionnel, avec des influences vikings, avec même des textes en norvégien ancien. Et puis ensuite, ils vont évoluer vers un black plus expérimental, plus avant-gardiste, avec l'ajout notamment de sonorités progressives. Hein. Et ils vont même se laisser influencer par du Genesis, du Pink Floyd, du Rush, du moins sur les premiers albums. Et même aussi, ils vont parfois ajouter des éléments de jazz. Alors, c'est un groupe qui va bien faillir, qui a bien failli avoir également une carrière avortée prématurément, parce que figurez-vous que à cause de l'assassinat de Euronymous en 93, eh bien le premier album d'Enslaved a failli ne jamais voir le jour, puisque en fait il devait paraître via le label dirigé par le leader de Mayhem. Ce disque, il s'intitule Vikinglirveldi, et finalement il va quand même arriver dans les bacs en 94, la même année que son successeur qui s'appelle Frost, qui lui va paraître sur un label français chez Osmose Productions. Et en fait, c'est ce deuxième album qui va permettre à Enslaved eh bien, de se faire connaître en dehors du cercle black metal scandinave. Donc voilà, ils doivent quand même un petit peu à la France, hein, les Enslaved. Alors ensuite, ça va rester quand même un groupe plutôt underground hein, pendant les années 90. C'est plutôt dans les années 2000 qu'Enslaved va sortir, on va dire, les pièces maîtresses de sa discographie. Alors la première, c'est Isa, en 2004, qui va recevoir des critiques dithyrambiques et va placer Enslaved au premier plan de la scène métal extrême internationale. Et puis, si je devais vous citer un autre chef-d'œuvre du combo, je pense que ce serait l'album Retear, qui est paru en 2012, qui est absolument magistral. Alors, en tout, Enslaved a sorti 15 albums, et jusqu'à aujourd'hui, et ben, leur dernier opus en date, c'était E ou I, si on le prononce à l'anglaise, qui est paru en 2017 et qui, dans mes souvenirs, était plutôt réussi. Mais voici aujourd'hui nos Norvégiens de retour donc avec l'album Utgard, un nom qui fait référence à la mythologie nordique, puisque Utgard, c'est le nom d'une forteresse, d'une énorme forteresse même, qui est faite de blocs de neige et de glaçons, qui est gardée par Utgard Loki, un lieu où tout n'est qu'illusion, magie et chaos, et c'est à travers des chemins tortueux, sombres et brumeux que le combo nous fait voyager dans les entrailles d'Utgard, car si l'identité du groupe elle est bel et bien là, hein, c'est-à-dire brutale, guerrière, qui est marquée par des passages atmosphériques assez intenses, eh bien Enslaved, loin de se reposer sur ses acquis, nous surprend en empruntant des couloirs alambiqués qui nous mènent eh ben, tout droit vers un univers progressif encore plus présent, plus mélodique aussi. Alors c'est vrai qu'Utgard, c'est un album qui est assez complexe à appréhender. C'est vraiment un disque qui se mérite, mais si vous prenez le temps de l'écouter à plusieurs reprises, eh ben vous vous laisserez vite entraîner au cœur de la forteresse d'Utgard pour une épopée incroyable. Voici un extrait de ce nouvel opus d'Enslaved avec un morceau que je vais prononcer en l'écorchant, je m'en excuse, on va dire il s'appelle Jeter Grita. Voici tout de suite Enslaved.
Oh!
Enslaved à l'instant dans Check Me Load, votre émission métal. Vous venez d'écouter le titre Jet Grita, je sais pas comment on le prononce, en tout cas c'est un extrait de l'album Utgarn qui paraît aujourd'hui. Nouvelle très belle pièce pour la discographie de Enslaved qui est vraiment décidément très très belle. C'est un groupe qui ne cesse de nous étonner, de nous surprendre et qui garde toujours cette identité pour laquelle on les aime. Et ça, c'est assez formidable de voir que malgré les années, ce groupe ne s'étiole pas. On va s'intéresser maintenant à un groupe de Death qui sort aussi aujourd'hui, décidément, son nouvel album. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il s'agit de Six Feet Under. Alors l'album, il s'appelle Nightmares of the Decomposed. Donc Six Feet Under, c'est un groupe qui nous vient de Tampa, en Floride, qui existe depuis 93, je dirais, si je me trompe pas trop. On peut rappeler au passage que Tampa, c'est un des berceaux principaux de la scène death américaine. C'est donc dans cette chaleur moite de Floride qu'a été créé Six Feet Under par Chris Barnes, qui est à ce moment-là connu pour être le chanteur de Cannibal Corpse. Et puis à l'époque, on a aussi Alan West qui est là, qui lui est le guitariste d'Obituary. Et bah, alors lui va pas rester super longtemps puisqu'il va quitter le projet 5 ans plus tard. Alors le style de Six Feet Under, je l'ai dit, hein, c'est du death metal, mais ce qui caractérise véritablement l'identité musicale du groupe, c'est un accordage très bas de la guitare et de la basse, des riffs rapides, des paroles inspirées du cinéma d'horreur à travers lesquelles le combo nous brosse finalement le portrait sombre de notre société violente et dépravée. Le premier album du groupe, il va s'appeler Haunted, il paraît en 95, et même s'il est quand même légèrement bâclé, eh bien la prestation de Chris Barnes va être saluée. Ça tombe bien puisque entre le chanteur et les autres membres de Cannibal Corpse, le climat est de plus en plus tendu. Du coup, fort de ce premier succès, hein, Barnes va décider de quitter les Cannibal Corpse pour se consacrer à Six Feet Under, même si au départ, ça aurait dû être qu'un simple projet secondaire. Donc, à ce jour-là, la discographie du combo, elle se compose de 13 albums studio, dont le dernier en date jusqu'à présent, c'était Torment, qui était paru en 2017. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Six Feet Under sort également assez régulièrement des albums de reprise. Ça s'appelle les Graveyard Classics. Alors, ils nous proposent des covers plus ou moins réussi, hein, il faut le dire, selon les disques. Il y a des trucs très bien et des trucs, c'est pas terrible. Il y en a quatre, hein, des Graveyard classiques, et il m'est arrivé une fois d'en diffuser dans la rubrique sortie cover pour une reprise d'AC/DC. Mais bon, faut se méfier, il y a à boire et à manger quand même, hein, dans tout ça. Revenons plutôt au nouvel album qui nous intéresse aujourd'hui, cet album qui s'appelle Nightmares of the Decomposed. Alors, la grosse nouveauté, c'est que ce disque, ça marque l'arrivée au sein du groupe d'un vieux pote de Chris Barnes, puisqu'il s'agit de Jack Owen, l'ex-guitariste de Cannibal Corpse, et puis aussi de Decide, qui était là à la même époque, hein, lors de la formation de Cannibal Corpse, il y a bien longtemps, et qui vient donc seconder dans Six Feet Under la guitare de Ray Sui, qui était arrivé lui au milieu des années 2010, en 2015 je dirais. Et ce qui est rigolo, enfin ça c'est pour la petite anecdote, hein, c'est que Ray Sui, lui, il est également guitariste d'un autre groupe qui s'appelle Cannabis Corpse. Et Cannabis Corpse, c'est un groupe qui parodie, en parlant de cannabis dans toutes ces chansons, qui parodie les autres groupes de métal extrême, et qui parodie beaucoup donc Cannibal Corpse. Voilà, c'était juste pour le petit trait anecdotique. Alors c'est d'ailleurs avec un enthousiasme non dissimulé, hein, que Chris Barnes a commenté ses retrouvailles avec son vieux camarade, avec Jack Owens. Pour lui, composer de nouveau avec Jack 25 ans après que leurs chemins se soient séparés, ça a été comme rentrer à la maison dans une salle pleine de cadavres, et oui, et pour lui, ce sont les riffs composés par Jack qui lui ont donné le carburant nécessaire pour écrire des paroles dérangeantes et vraiment mettre le feu à son esprit créatif. Et c'est vrai que le duo explosif fait ici quelques étincelles en nous offrant un bon vieux retour aux racines death old school de la grande époque de Cannibal Corpse. Alors il y a quand même un bémol à tout ça qui est non négligeable, c'est que la voix de Chris Barnes, elle s'arrange absolument pas avec le temps, et pour le coup, ça donne un aspect un peu foutraque, un peu bâclé à l'ensemble. C'est un peu dommage, mais bon, ça suffira pas à gâcher le plaisir des fans. Voici tout de suite un extrait de ce macabre Nightmares of the Decomposed, avec un morceau qui s'appelle Amputator. Âme sensible, éloignez-vous de vos radios, voici Six Feet Under. Ender avec un extrait du nouvel album Nightmares of the Decomposed. Vous venez d'écouter le titre Amputator. L'album paraît aujourd'hui et rappelons-le, il marque le retour de collaboration professionnelle et certainement amicale, j'imagine, entre notre Chris Barnes, donc le chanteur du groupe, et puis son ancien collègue de Cannibal Corpse, le guitariste Jack Owen. Voilà pour le groupe Six Feet Under. On va rester aux États-Unis, mais on va aller dans des contrées un peu plus calmes. On va s'intéresser au groupe que j'ai diffusé la semaine dernière dans la rubrique Sortez Cover. Souvenez-vous, j'avais diffusé Night in White Satin dans une reprise d'un groupe qui s'appelle Oceans of Slumber. Et je vous avais dit que si j'arrivais à mettre la main sur le nouvel album, eh bien je le présenterais dans cette émission. Et c'est chose faite, j'ai réussi ces derniers jours à me procurer cet album, qui est tout récent, hein, puisqu'il est paru le 4 septembre, qui est un album éponyme, qui s'appelle Oceans of Slumber, tout comme le groupe. Alors du coup, on va pouvoir en parler de tout ça, parce que c'est très intéressant. Donc, Oceans of Slumber, c'est un groupe originaire du Texas, de Houston précisément, qui est né en 2001. Il a été créé sous l'impulsion notamment du batteur Dober Beverly, qui est désormais le seul membre fondateur à être encore présent. Au départ, le groupe il va être mené par un chanteur qui s'appelle Ronnie Gates, mais qui va partir en 2014 et laisser sa place à une chanteuse, la chanteuse Kemi Gilbert, qui va d'ailleurs devenir également un élément clé en matière de composition au sein de Ocean Slumber. Il faut savoir que outre le duo Dober Beverly, Kemi Gilbert, eh bien le Oceans of Slumber a vu son line-up totalement remanié entre ses deux derniers albums. Là on est sur du line-up tout neuf. Donc pour ce qui est du style musical du groupe, on est sur un métal progressif avec des tendances atmosphériques, doom et gothique. Alors ça paraît comme ça un peu simple, mais c'est un peu plus nuancé que ça, hein, à vrai dire, mais ça on s'en aperçoit en écoutant les disques. Alors des disques, justement, il y avait eu un premier album autoproduit qui avait été enregistré avec le premier chanteur, paru en 2013, et c'est ensuite que les choses sérieuses ont commencé à s'intensifier pour Oceans of Slumber, puisqu'ils vont signer avec le label Century Media en 2015, et l'année suivante ils vont sortir l'album Winter, sur lequel on trouve justement la reprise que j'ai passée la semaine dernière. Ce deuxième album va d'ailleurs recevoir un accueil extrêmement positif de la part des médias américains, et ça va être de bon augure, hein, pour Oceans of Slumber, qui va sortir en 2018 un autre album qui s'appelle The Banished Heart, sur lequel eh bien, les Texans vont même s'offrir un petit featuring avec Tom S. Englund, le frontman d'Evergrey. Alors là encore, les médias vont être très enthousiastes, par exemple le magazine anglais Metal Hammer, qui est une valeur sûre, hein, en matière de médias, va inclure le disque parmi les 50 meilleurs albums parus en 2018, et puis le magazine un peu plus généraliste, le magazine Vice va définir Oceans of Slumber comme étant le pendant féminin d'Opeth, ce qui est une comparaison quand même plutôt flatteuse. Et donc, après cette refonte importante dont j'ai parlé du line-up, eh bien voici notre combo de retour avec ce très bel album éponyme dont la parution début septembre est passée quand même relativement inaperçue en France, et ça je trouve que c'est vraiment dommage, surtout en cette période compliquée où finalement il y a assez peu de disques qui sortent, hein, par rapport aux autres années. Au moment de la rentrée, là, il y a quelques trucs, mais c'est pas énorme non plus. Heureusement que Arjen Lucassen a eu l'excellente idée de choisir la chanteuse Kemi Gilbert pour incarner le protagoniste principal féminin de son nouvel opéra métal Iron, qui est sorti vendredi dernier, puisque ça va donner à ce jeune groupe très prometteur une visibilité beaucoup plus importante, d'autant que son nouvel album est sans conteste sa production la plus aboutie jusqu'à aujourd'hui. Comme l'a confié le batteur Doobie Brothers à la presse tout récemment, ce quatrième album, c'est un nouveau chapitre, hein, qui s'ouvre pour Oceans of Slumber, qui montre ici une volonté ardente de faire évoluer son style, sa musique, et puis tout son univers à travers un disque qui est poignant, profond, qui est teinté d'une certaine mélancolie, le tout incarné par la sublime Kemi Gilbert, qui est afro-américaine et possède donc une tessiture de voix particulière par rapport aux autres chanteuses métal, une voix un petit peu rocailleuse mais tellement chaude et puissante qu'elle rappelle parfois l'intensité du gospel. Alors ça, on peut le vérifier sur quelques morceaux. Bon, faut écouter l'album en entier parce que là, dans le titre que j'ai choisi, c'est pas hyper flagrant, mais quand même, Oceans of Slumber, c'est un album qui est vraiment très réussi, et ce de bout en bout, hein, de la première à la dernière note, et puis jusqu'à l'artwork avec ses couleurs chatoyantes. Donc merci Arjen Lucassen de m'avoir fait découvrir ce magnifique groupe. Voici un extrait de leur dernier album avec un morceau qui s'appelle The Soundtrack of My Last Day. C'est le titre qui ouvre le disque. Voici tout de suite Oceans of Slumber.
Thank you. playing with a mechanical scar.
Oceans of Slumber sur Back FM. Malheureusement, on va pas pouvoir écouter le morceau jusqu'à la fin parce que c'est un morceau qui dure plus de 7 minutes. Et sinon, on n'aura pas le temps de passer d'autres morceaux. On sera obligé de conclure directement. Donc, ce serait un petit peu dommage. Oceans of Slumber, donc, extrait du dernier album. Le titre qu'on vient d'écouter, c'était The Soundtrack of My Last Day. C'est le morceau d'ouverture du disque. J'ai choisi celui-ci parce que on a à peu près toutes les palettes de ce que peut ressembler la musique de Ocean Slumber. Voilà, c'était pour vous faire un petit concentré juste sur un morceau, mais allez vraiment écouter cet album qui est sublime. Et j'espère que voilà, le groupe va vraiment arriver à obtenir la renommée qu'il mérite. On va s'intéresser maintenant à un album qui est un petit peu plus ancien, qui est sorti, enfin pas vraiment par rapport à celui-là, mais par rapport aux sorties d'aujourd'hui, puisqu'on va revenir au 21 août. Ça fait plusieurs fois que je veux vous parler de cet album-là, mais que j'ai pas le temps, donc aujourd'hui on en profite, on parle de Unleash the Archer, qui a sorti donc en cette fin août un album intitulé Abyss. Alors c'est un groupe canadien, Unleash the Archer, qui existe depuis 2007. Le groupe s'est formé à Victoria, mais depuis a été s'installer à Vancouver. J'imagine que c'est plus simple. Il a été créé sous l'impulsion notamment de la chanteuse Brittany Slice et du batteur Scott Buchanan, qui sont en quelque sorte les deux piliers du groupe. Parce que, en fait, il faut savoir que Unleash the Archer a connu beaucoup de changements dans son line-up. Alors là, on est sur un heavy metal qui mélange des influences power, speed, metal mélodique, avec aussi une petite pointe de death mélodique. Après deux albums et un EP qui sont sortis de manière indépendante, le groupe a signé en 2015 avec Napalm Records, sur lequel est sorti quelques mois plus tard l'album Time Stands Still, qui marque un tournant dans la carrière du groupe, puisque leur musique va prendre une direction beaucoup plus heavy avec l'arrivée du guitariste Andrew Kingsley. De plus, la signature avec Napalm, elle va permettre à Unleash the Archer d'être distribuée aussi bien sur le continent américain que sur le continent européen. L'avenir s'annonce donc prometteur pour les Canadiens, qui vont retourner assez rapidement en studio et dégainer en 2017 le très réussi Apex, un ambitieux concept album qui va susciter un bel engouement à la fois chez les médias et aussi chez les amateurs de bon heavy. Alors, Apex, au départ, ça aurait dû être un double album et... Donc c'est tout à fait logiquement que Abyss, le nouvel opus du combo, et sa suite, donc le second chapitre, finalement ils se sont dit que faire un double album c'était peut-être un peu ambitieux, que ça allait pas forcément aboutir sur quelque chose de bien, donc ils ont préféré faire un diptyque, et on retrouve sur Abyss la suite des aventures spatiales de l'Immortel, qui est le protagoniste principal de l'histoire, qui va se retrouver ici au cœur d'une vengeance, puisque avec Abyss, Unleash the Archer nous livre son interprétation du bien contre le mal, de la lumière contre l'obscurité, mais aussi de l'homme contre lui-même, soit une lutte universelle à laquelle chaque être vivant peut chaque être humain peut s'identifier. Tout comme Apex, Abyss a été enregistré, mixé et masterisé par Jacob Hansen, qui a bossé avec Volbeat, Delane, Amaranth aussi, qu'on a écouté tout à l'heure. Et ça s'est fait en collaboration, tout ça, avec le guitariste, avec Andrew Kingsley. Le résultat de tout ça, c'est un son massif, puissant, riche en arrangements et en orchestration. Cette fois-ci, contrairement à Apex, les synthés occupent une place extrêmement importante dans les compos, ce qui donne énormément de relief à l'ensemble. Alors, des hymnes puissants tels que l'immense ode au power metal qui est Abyss, qu'on va écouter tout à l'heure, jusqu'à des refrains presque popisants et entêtants qui sont présents dans d'autres titres. On peut dire qu'Abyss est un album varié qui a su malgré tout conserver une approche un petit peu avant-gardiste, assez rafraîchissante. C'est un album flamboyant qui fera sans nul doute date dans la carrière d'Unleash the Archer. Voici tout de suite justement le morceau titre Abyss. vient d'écouter Unleash the Archer avec le titre Abyss, extrait de l'album du même nom paru fin août. Donc deuxième volet d'une histoire commencée avec Apex qui était paru en 2017. Voilà pour le groupe canadien Unleash the Archer. Ça tombe bien, on va parler également d'un groupe canadien maintenant, enfin d'un groupe canadien et d'un groupe anglais, puisque il est l'heure de la rubrique Sortez Cover. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a la période d'Halloween qui approche, et moi, ça me donne envie d'écouter des histoires effrayantes, comme celle de Alison Hell, cette petite fille terrifiée par le croque-mitaine tapis dans la nuit. Cette histoire, elle nous est contée pour la première fois par Annihilator, donc un groupe canadien, en 89, dans l'album Alice in Hell. Et donc, pour cette rubrique Sortez Cover, nous allons la découvrir dans une version signée des Cradle of Filth, paru en guise de bonus track en 2017 sur leur album Cryptoriana, The Seductive Nave of Decay, qui pour le moment est leur dernier album studio en date. Donc Alice in Hell, c'est probablement le titre le plus célèbre d'Annihilator, ce groupe poids lourd de la scène thrash internationale qui est né en 84 à Ottawa et qui mène depuis une carrière exemplaire avec ce frontman qui s'appelle Jeff Waters, qui en est le chanteur, guitariste et principal compositeur. C'en est le seul membre permanent depuis 84, Jeff Waters. Quant à la chanson Alice in Hell, eh bien, elle paraît le 17 avril 89 sur le tout premier album de Annihilator. Cet album, donc, je l'ai dit, il s'appelle Alice in Hell et il va vite être considéré comme le premier chef-d'œuvre du combo canadien. Aujourd'hui, c'est un album qui fait office de référence en matière de thrash metal. Alors, Annihilator nous raconte dans cette chanson l'histoire d'une fillette canadienne qui, comme beaucoup d'enfants, est terrorisée une fois à sa chambre plongée dans la nuit. Un monstre rôde autour d'elle et là, tapis dans le noir, il attend le moment où il va saisir la fillette pour l'envoyer en enfer. Alors elle va faire des tentatives un peu insistantes à la petite Allison pour prévenir ses parents du danger qui la guette, mais elle va pas vraiment trouver d'aide auprès d'eux, puisque tout le monde le sait, les peurs enfantines, ça n'est que le fruit de l'imagination. Alors du coup, bien loin de l'aider à surmonter cette terreur, l'ignorance des parents face à Allison ne va faire qu'empirer la situation et la fillette va finir par sombrer dans une folie profonde. Une histoire que certains prétendent tirer d'événements réels. Enfin, du moins, c'est ce qu'on nous laisse croire quand on regarde le clip vidéo. Alors, outre cette atmosphère inquiétante, la chanson Allison Hell, c'est également ce chant absolument incroyable qui est interprété par Randy Rampage, qui à l'époque tenait le micro au sein d'Annihilator. Et puis, c'est ses parties de guitare qui sont aussi inoubliables avec cette intro acoustique et puis ce fameux riff qui fait depuis le bonheur des guitaristes du monde entier et qui d'ailleurs montrait d'ores et déjà le potentiel et le talent de Jeff Waters. J'ai évoqué le clip vidéo, si vous avez l'occasion d'aller le voir sur YouTube, on le trouve. C'est assez marrant parce que la petite Allison, elle est incarnée non pas par une fillette mais par une jeune femme qui a bien 20 ans. Donc voilà, ça fait un espèce de petit décalage comme ça, c'est assez drôle. Alors cette chanson, elle a eu un impact important et elle a notamment beaucoup influencé Danny Filth des Cradle of Filth, qui avait envie de la reprendre depuis pas mal de temps. Et puis finalement il a pu concrétiser son projet en 2017 à travers cette revisite à la sauce Cradle, c'est-à-dire un mélange de black symphonique, de heavy metal, avec donc à la fois une atmosphère qui est très gothique, et puis à la fois une petite touche héritée des influences New World of British Heavy Metal du groupe, qui font depuis presque toujours la signature des Cradle of Filth. Signalons d'ailleurs au passage que les parties vocales de la chanson, elles s'y est à merveille à notre cher Danny, puisque c'est quelqu'un qui maîtrise le passage du grave au suraigu comme personne, donc cette chanson elle était en fait vraiment taillée pour lui. Voici donc Alison Hell d'Annihilator, revue et corrigée par les Anglais de Cradle of Filth, un titre disponible sur le dernier album en date du groupe qui est paru en 2017. Quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon des sorties du moment. Normalement, il y aura aussi une interview. En attendant, stay metal, stay rock and roll. Salut à tous.